Grand Amphi, rue des Écoles, Louise Touré.
Grand Amphi, pardon, Marie-Caroline Missir, vous êtes là avec moi pour parler des étudiants américains. À quoi ressemblent leurs universités régulièrement classées parmi les meilleures du monde? Comment y apprend-on et surtout peuvent-elles nous inspirer en France ou modéliser notre enseignement supérieur?
Oui, et pour cela, nous recevons Sylvie Le Charbonnier.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef d'EducPro, notre partenaire, je le rappelle, et vous venez de rentrer d'une learning expédition, un voyage d'études.
Merci.
Je vous en prie. À New York et à Boston, avec une quinzaine de présidents d'universités et de directeurs d'école. Sylvie, qu'avez-vous pu observer sur les modes d'apprentissage dans ces universités? En fait, comment les étudiants travaillent et dans quelles conditions surtout?
Donc oui, effectivement, on a passé 2 jours à New York et 3 jours à Boston. On a visité évidemment les plus grandes universités américaines, Columbia, MIT, Harvard, mais on a aussi été voir des start-up qui s'intéressent à l'éducation et qui proposent des nouvelles technologies dans le domaine de l'éducation. Et c'est assez intéressant parce que en fait, c'est un secteur en pleine croissance aux États-Unis.
Et ces startups sont en lien directement avec
les universités.
Sont montées par des étudiants quelquefois.
Voilà, souvent par des étudiants là-bas il y a une culture de l'entreprise et de l'entrepreneuriat très forte. Et par exemple, on a été visiter Newton, qui est une startup qui travaille qui réfléchit à personnaliser l'éducation via en fait les cours en e-learning. En fait, elle prend les cours qui existent, que les étudiants font sur leur ordinateur, les tests, etc. Et elle analyse toutes les données, tout ce qui se fait, et après elle permet d'adapter en fait le cours à l'étudiant grâce aux données recueillies.
Le big data au service
de
la pédagogie.
Le big data au service de la pédagogie, et ça c'est assez intéressant.
Il y a des questions sur les données qui vont peut-être suivre. Ça c'est vraiment une interrogation française. Est-ce qu'aux États-Unis,
les données privées, publiques, oui, c'est une vraie question. Mais en tout cas, la place du numérique dans l'éducation n'est plus un sujet. C'est-à-dire que le numérique est là. Au MIT, par exemple, dans les cours de premier cycle, il y a à peu près 50% des cours qui sont maintenant donnés à ce qu'ils appellent en blended learning. C'est pareil, je vais te dire plein de mots en barbare, vous m'excusez.
C'est-à-dire
le blended learning, c'est ça mélange des cours en ligne et des cours en présentiel. Donc des cours en classe et aussi des travaux à la maison ou des MOOC adaptés à certains bachelors en fait.
Et ça, vous l'avez vu, vous venez de le dire, au MIT. Vous l'avez vu dans d'autres universités aussi?
Oui.
Modeste, peut-être.
Alors, on a plutôt visité le top, je suis désolée. Mais oui, tout ça, c'est vraiment, un phénomène de fond qui est vraiment en train de modifier l'enseignement supérieur profondément aux États-Unis.
Et les locaux, les conditions d'études des jeunes, ce que vous avez pu voir, à quoi ça ressemble des locaux au MIT, comment on travaille là-bas?
Les locaux sont très beaux, très grands. Je pense que ça ferait vraiment pâlir d'envie beaucoup d'universités françaises, on le sait. Il faut rappeler aussi la grosse différence entre les deux systèmes, c'est quand même les moyens. Les universités américaines ont beaucoup de moyens, les étudiants un peu moins, puisqu'ils payent très cher leurs études. Par exemple, Harvard, le budget d'Harvard, c'est à peu près le budget de l'enseignement supérieur français. Donc
ça devient difficile de se comparer.
De très beaux locaux et de très belles conditions de travail, évidemment.
Alors, vous étiez accompagné de présidents d'université, de directeurs d'école. Comment ils réagissaient en voyant ça, justement? Ils s'interrogeaient sur nos manques de moyens, sur notre capacité en France à développer un enseignement numérique, à développer de beaux locaux, à se projeter dans l'avenir?
Il y avait une dichotomie en disant, d'un côté, effectivement, on n'est pas si mauvais, on peut faire des choses, et en gros, si vous nous donnez les moyens, on peut faire la même chose. Enfin, c'est assez.
Vous leur avez fourni des arguments supplémentaires.
Voilà, exactement. Mais en même temps, il y avait aussi, cette réflexion sur les moyens leur donnent quand même cette longueur d'avance pour adapter leur pédagogie, quoi.
Et d'une certaine façon, au vu de ce que vous avez pu observer, cet enseignement supérieur américain qu'on vient visiter, qu'on montre en exemple, qui a une puissance assez phénoménale.
Est-ce soft que... power, Maria.
Exactement, j'allais y venir. Est-ce que c'est pas aussi une forme de domination culturelle pour les États-Unis? Vous l'avez ressenti, ça, sur place?
Oui, il y a toujours ce discours un peu philanthropique de « on va changer le monde, on travaille à l'enseignement de demain, etc. » Mais c'est vrai que derrière, il y a une stratégie d'influence quand même très claire, notamment grâce, les cours en ligne, etc. Ça permet aussi de diffuser la bonne parole, quoi. Donc c'est vrai qu'ils réfléchissent à ça. Et par exemple, à travers les MOOC, ils essayent de repérer les étudiants étrangers les meilleurs pour les amener sur leur campus.
Partout dans le monde.
Oui, donc effectivement, c'est aussi une stratégie d'impérialisme, le mot est fort, mais enfin, c'est quand même un peu le cas.
Parlons des droits, du coup, de cet enseignement pour les étudiants. Aujourd'hui, certains économistes parlent de bulles, bulles financières qui pourraient éclater, car ces crédits sont accordés parfois facilement et plus difficilement remboursables, car le marché de l'emploi n'est pas toujours aussi simple et aussi fluide qu'on le croit aux États-Unis.
Oui, effectivement, il y a vraiment un problème du surendettement des étudiants américains. Et il y en a d'ailleurs qui renoncent à l'université parce que ça devient trop cher, mais les États-Unis ont horreur du vide, donc il y a déjà de nouveaux acteurs qui apparaissent pour fournir, par exemple, General Assembly, qui est une start-up qui fournit des cours à la carte, beaucoup moins cher, qui permet d'utiliser un petit cursus de ci, un petit cursus de ça, pour compléter sa formation et pouvoir avancer dans sa carrière. Donc les universités doivent faire attention, je pense, à ces nouveaux acteurs qui vont
des acteurs du numérique, hein.
Des acteurs du numérique et pas que, parce que General Assembly propose aussi des cours en présentiel, mais c'est un nouveau modèle qui apparaît.
Donc même la bulle autour des problèmes des droits d'inscription est transformée en argument pour développer l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat étudiant.
Exactement, et pour développer de nouveaux modèles. Il y a certains économistes ou certains sociologues qui disent que bientôt, enfin dans quelques années, ce sera des cours à la carte, en fait que les études en 3 ans ou 5 ans à temps plein, ce sera plus la norme. Donc ça, on n'y est pas, hein. mais certaines études sont en train de réfléchir à ça.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a des universités américaines qui viendraient faire des voyages d'études en France? Vous l'avez déjà vu?
Certaines peut-être, mais c'est vrai que l'internationalisation va surtout dans le sens autre pays États-Unis que États-Unis autre pays ou États-Unis France. Donc ça.
On s'en rend bien compte en vous écoutant. Sylvie Le Charbonnier, merci beaucoup.
Merci.
Et nous rappelons que vous êtes la rédactrice en chef d'Educ Pro, qu'on peut lire aussi beaucoup d'articles sur l'enseignement supérieur, son fonctionnement et ses évolutions sur ce site qui est notre partenaire pour ce grand amphi. Merci beaucoup. Merci Marie-Caroline Missire.
Merci.
À la semaine prochaine.